Eh bien, bonjour à tous. Je suis Marie-Christine Pessiot. Je vais vous évoquer ce thème de l'agilité qui répond à 90% des préoccupations managériales. Alors, je vous prendrai un petit peu à partie, là, dans deux minutes, pour connaître, pour que vous puissiez exprimer en deux, trois mots, chacun ou ceux qui le souhaitent, les préoccupations managériales qui vous occupent, qui vous habitent en ce moment. Dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, donc, nous ferons le tour un petit peu et nous ferons une synthèse de ce qui préoccupe aujourd'hui les entreprises, tant dans leur organisation qu'au niveau de des fonctionnalités managériales. Dans un troisième temps, on parlera de l'agilité dans le sens des process et des outils, non pas comme des recettes, parce que l'agilité, ce n'est pas dogmatique. L'agilité, c'est des process et des outils que chacun met à sa sauce, adapte à son environnement, à son organisation. Et on parlera, on conclura sur le véritable changement de paradigme qui attend les entreprises aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous rappeler ce que Teilhard de Chardin a dit il y a plus d'un siècle quand même, et qui est, à mon sens, à l'origine de toute cette évolution vers l'agilité. Il disait, lui, qu'à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Et l'agilité, c'est bien ça, c'est permettre à chacun à son niveau, de prendre conscience et de valoriser et de formaliser ce qu'il fait et son utilité dans les organisations, de manière à ce que les organisations en question soient faites à terme de gens qui soient impliqués et qui s'y sentent bien. Pour s'impliquer, il faudra d'abord qu'ils s'y sentent bien. Alors, je vais vous poser la question, là, tout de suite, en deux, trois mots. Quels sont vos principales préoccupations de manager, de collaborateur au sein de vos organisations? Alors, quand je dis en deux, trois mots, c'est simplement pour donner le ton, sachant qu'ensuite, je vous parlerai du baromètre de la FNEJ, qui est donc une organisation, je dirais, qui a fait des études assez poussées en la matière, pour ensuite passer à ce que l'on peut mettre en face en termes d'outils et de processus pour faciliter, justement, fluidifier les fonctionnements de nos organisations. La parole est à vous. La gestion du temps. La gestion du temps, oui. Merci.
La motivation des équipes. Hein.
Merci. Motivation des équipes.
La réticence au changement.
Ah, oui.
Oui.
Merci. Pardon.
L'accompagnement
vers le numérique, oui.
La cohésion.
La cohésion. Cohésion. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. À quel niveau la cohésion? D'accord. Donc, l'accord entre les personnes, quelque part, vous reliez ça au fait d'être bien dans l'équipe en question, dans le groupe en question? Bah peut-être que, en fait, la créativité en sera peut-être une conséquence naturelle. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Voilà. Quand les gens savent dans quel sens ils vont, ils sont déjà plus, je dirais, concentrés et axés sur ce sens commun. Hmm? Merci. La reconnaissance. On parle de reconnaissance individuelle. On peut parler peut-être aussi de la reconnaissance d'un service ou d'une équipe. Merci, ouais. Oui.
Encourager la prise d'initiative,
oui. Vous reliez ça au fait, éventuellement, en l'encourageant, cette prise d'initiative, de accepter le risque de se tromper. Hein, voilà, le droit à l'erreur. Merci, oui. L'amélioration continue. À quel niveau vous l'entendez? Bénéficier, oui, savoir bénéficier de ses erreurs pour pouvoir avancer et que le système, que l'organisation permette ça aux individus comme aux groupes, en fait. Très bien, merci, oui, oui. Bien, eh bien, écoutez, si vous voulez, là, maintenant, je vais vous parler, donc, je vais vous exposer la FNEJ, pour ceux qui ne le seraient pas. Hein. C'est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Hein. Donc, il y a un baromètre FNEJ, comme on dit,
avec des études qui reprennent effectivement les points que vous avez évoqués, avec des études qui ont été faites et qui sont renouvelées très régulièrement, pour savoir un petit peu quels sont les points qui pêchent en matière de gestion d'entreprise et des organisations. Alors on se rend compte qu'il y a un premier groupe de variables, en fait, qui se détache très très nettement dans le résultat de ces études. C'est premièrement la relation client, l'expérience client, et donc la stratégie qu'on adopte vis-à-vis du client pour améliorer cette relation client. Le deuxième point, ce serait l'innovation. Beaucoup de soucis, je dirais, beaucoup d'obstacles qui font que l'innovation, la créativité dont vous parliez tout à l'heure, ne peut pas toujours s'exprimer. Et donc, on se rend compte qu'il y a un besoin d'animation de l'innovation, justement de la créativité à l'intérieur des organisations. Le troisième point, c'est la mobilisation, l'engagement. Vous parliez tout à l'heure, en effet, de gens qui n'étaient pas motivés. Vous parlez de cohésion. Et en fait, c'est le troisième grand souci, en fait, dans les organisations. La quatrième variable, c'est la performance globale de l'entreprise. Mais dans le peu d'échanges que nous venons d'avoir, on se rend bien compte que c'est une des conséquences, en fait, plus qu'un élément à part entière et isolé en lui-même. Hein. Donc, autant que financière, quand on parle de performance globale de l'entreprise, on parle bien d'une équipe, d'une organisation qui fonctionne d'une manière suffisamment fluide pour être performante en matière de créativité, innovation, en matière de fluidité de processus, en matière de relations clients, qui était le premier point. Ensuite, le cinquième groupe de variables répond en fait ou constitue le problème qui consiste à créer de l'efficacité collective dans l'organisation et la réactivité opérationnelle, c'est-à-dire qu'une équipe qui ne sait pas toujours dans quel sens on va, dans quel sens va l'entreprise, bien évidemment, là aussi c'est encore une conséquence, eh bien, elle ne peut pas être très réactive parce qu'avant de réagir par rapport à un client, par rapport à une problématique, eh bien, on va faire appel aux différents niveaux hiérarchiques qui pourraient s'opposer à une action ou à une autre. Hein. Donc, en fait, on se rend compte que les trois principales, les focus sur lesquels il va falloir que les entreprises agissent, et elles ont cette sensation-là, c'est la relation client, c'est l'innovation, créativité et la mobilisation de leurs collaborateurs et de l'ensemble des équipes. Au niveau du second groupe de variables qui s'est dégagé de ce baromètre FNEJ, eh bien là, on a la gestion de la connaissance avec le partage des savoirs. Alors, il est vrai que dans l'entreprise et dans la culture qui est la nôtre, on a quelques soucis parfois de partage des informations. L'information est souvent reliée au pouvoir qu'on a l'impression de détenir. Et on a souvent entendu, jusqu'à, je dirais, il n'y a pas très longtemps, que diviser pour régner, c'était aussi une politique. Le deuxième élément, c'est la rétention et le développement des talents. Mais des gens fortement impliqués n'ont pas trop de barrières pour développer au sein de l'organisation et faire profiter l'entreprise de leurs talents. On se rend compte rapidement que quand les gens ne sont pas motivés, ils ont quand même une certaine réticence et au partage et, je dirais, à une véritable implication. Ensuite, la troisième variable dans ce deuxième groupe, c'est le pilotage dans l'incertitude. Alors là, c'est aussi le grand hic. C'est-à-dire que on en parlera donc tout à l'heure. Il y a des raisons pour lesquelles ces points ont été évoqués par les entreprises. Et ce sont les mêmes raisons qui font qu'au jour d'aujourd'hui, l'agilité est totalement indispensable. Bon, si vous êtes là, c'est que vous en êtes complètement conscient. Donc, on rebalayera rapidement les points suivants. Ensuite, le quatrième point de ce deuxième groupe de variables, c'est mettre en route et définir les modalités et les processus de transformation permanents. On parlait d'amélioration continue, voilà. C'en est une conséquence et c'est un point qui est essentiel à la conduite fluide de la transformation d'une organisation. Et le dernier point, c'est le poids du leader dans la performance. Alors, en synthèse, on se rend compte que dans l'incertitude et la complexité de nos environnements actuels, eh bien, on est obligé de faire que nos organisations soient en permanence adaptables. Hein. Donc, on parle bien d'adaptation. L'hyperconcurrence nous conduit, l'hyperconcurrence sur de nombreux marchés, du fait de l'élargissement des marchés, du fait de la mondialisation, nous amène au niveau des entreprises à devoir être beaucoup plus innovants et de plus en plus rapidement. Et le troisième point important, eh bien, c'est au niveau de la gestion interne des ressources humaines, où on se rend compte que beaucoup aspirent, et la majorité aspire à un mieux vivre dans l'entreprise. Alors, je pense que c'était le cas il y a 40 ans de la même manière, sauf que personne ne l'exprimait. Aujourd'hui, clairement, c'est exprimé et ça devient presque la condition sine qua non au bon fonctionnement d'une organisation interne. Alors, pourquoi tout ça, en fait ? Et je pense qu'il est important de revenir dessus. C'est parce que on vient de vivre quand même, et nous sommes en plein milieu de ces révolutions, quatre grandes révolutions, donc trois qui se sont produites, je dirais, bien par l'avancée des technologies, c'est ce qu'on appelle la révolution technologique, ça on le voit, c'est une évidence. On a vécu une véritable révolution économique qui s'est conclue par ce qui est arrivé en 2008, la chute de Lehman Brothers. On a appelé ça crise pendant des années. On se rend compte qu'aujourd'hui, cette révolution est encore en cours pour aboutir, je dirais, à de nouveaux modèles. Nous vivons parallèlement une véritable révolution sociétale avec un mix de générations qui sont totalement différentes, des générations de plus en plus rapprochées d'ailleurs. Et ça, c'est un prospectiviste, Jean Stone, qui parle de ces trois révolutions qui vont induire automatiquement derrière la révolution managériale obligatoire pour réussir à garder une certaine cohérence, à être en cohésion avec ce qui nous arrive, en fait. Hein. Et il est inévitable dans les organisations d'il y a un certain temps d'apporter un certain nombre d'éléments de transformation qui vont permettre justement de rester plus adaptés, de gérer l'intergénérationnel dans les entreprises, de gérer l'interculturel et de savoir faire face à une concurrence accrue, de savoir faire face à un monde qui bouge et au sein de nos environnements concurrentiels, d'être obligé de s'adapter en permanence. Donc, les trois priorités deviennent les suivantes. Donc, faire face à la complexité et à l'incertitude, bien sûr, jusqu'à dans nos chemins personnels et professionnels. Rester compétitif. Et pour cela, il faut bien qu'on mobilise tous les talents et toutes les compétences. Et madame qui parliait tout à l'heure de personnes impliquées, d'une cohésion, eh bien, il va falloir en effet en passer par là. Et il y a des outils de l'agilité pour ça. C'est en ça que l'agilité répond parfaitement à l'ensemble de ces problématiques. Et bon, le dernier point dont j'ai parlé, hein, c'est s'adapter aux générations Y, Z. Alors après, il en viendra d'autres. Je dirais que le principe n'est pas tant, encore une fois, dans le dogme et dans la théorie, que de céder simplement de cette théorie pour comprendre ce qui nous arrive et en comprenant ce qui nous arrive, savoir mettre en face ces nouveaux outils et processus de l'agilité qui nous permettent d'agir différemment. Parce que c'est bien beau de se dire on va tout changer, on va transformer l'organisation. Il faut que, j'entends des dirigeants parfois qui me disent, mais moi, il faut que mes équipes deviennent force de proposition. Ben oui, mais s'ils continuent de les réunir autour d'un comité de direction restreint qui est censé transmettre l'information, ou tout du moins impulser à chacun ses équipes ensuite dans les différents silos de l'entreprise, parce que bien sûr, dans ces cas-là, ces entreprises travaillent en silo et uniquement en silo, eh bien, on voit bien que c'est mission totalement impossible. Donc, une volonté ne suffit pas. Si on applique, je dirais, aujourd'hui, les outils que l'on appliquait hier, nous n'aurons que les résultats que l'on a obtenus jusqu'à présent et qui ont mené certaines entreprises, très grandes d'ailleurs, à leur perte. Hein. On peut parler de Kodak, on peut parler d'autres. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, on se rend bien compte, et dans le peu que vous m'avez restitué, en fait, on voit bien qu'il y a un grand besoin de sens, un grand besoin de mieux être dans l'entreprise, un grand besoin pour les entreprises, là, pour le coup, d'avoir une capacité de créativité bien supplémentaire et donc être capable de solliciter les organisations, l'ensemble des collaborateurs pour favoriser chez eux l'expression des différentes idées de leurs compétences, de leur vision et autres. Hein? Donc voilà, j'ai fait ça parce que là, c'est ce qui associe un petit peu le schéma avec le visuel avec ce que je vous dis. L'entreprise, l'organisation aujourd'hui. Alors hier, elle était. Hier, chacun était sur sa partie et chacun y restait. Demain, ou voire aujourd'hui, l'agilité, notamment les principes de l'agilité, font qu'on travaille ensemble, que l'on construit ensemble, que l'on n'est pas dans le contrôle ou en train de chercher qui a fait quoi, pourquoi et comment, mais l'idée est vraiment de fédérer l'ensemble des compétences et des qualités des collaborateurs, des acteurs de l'entreprise, pour en améliorer et la performance de l'entreprise, mais aussi pour favoriser un mieux-être quand même dans le quotidien. Alors on parle après, bien sûr, de valeurs. Hein. Il faut évidemment, on parle de collaboration avec les clients, c'est quand même le client qui est au cœur du processus. Il faut en regard un meilleur respect de l'humain, ne serait-ce que pour que lorsqu'ils se sentent bien en interne, en relation avec l'externe, ils puissent justement avoir une relation intéressante, constructive, qui soit en réponse à la demande de l'extérieur. Donc il faut pour cela, bien sûr, aussi de l'implication et de l'engagement. Et tous ces outils que l'on va évoquer en regard de ces problématiques, tous les outils qu'on va évoquer ou les processus vont devoir, quelque part, actionner l'une de ces valeurs, l'une ou plusieurs de ces valeurs, pour faire en sorte, justement, qu'on ne travaille plus comme hier. Alors, on parle de confiance, on parle de respect, on parle d'autonomie, pour favoriser les écoutes, les partages, et puis la synchronisation, parce que quand on parle d'entreprises, notamment libérées, eh bien, cette libération, elle se fait dans un cadre. Cette libération, c'est une libération de l'individu pour participer au collectif. C'est une libération de la parole, de l'expression, mais c'est aussi, évidemment, une libération de l'organisation, mais dans un certain cadre, dans le cadre qui correspond néanmoins, parce que ça, c'est quand même, je dirais, le nerf de la guerre, dans le cadre qui correspond néanmoins à l'évolution de l'entreprise, de manière à ce qu'elle ait toujours les moyens, justement, de mettre à disposition de ses acteurs, extérieurs ou intérieurs, l'ensemble de ces processus, de ces outils qui représentent une certaine forme d'investissement pour les entreprises. Donc l'agilité, on est bien d'accord, c'est des outils pour faire simple, pour faire rapide, pour faire efficace. Un comité de direction autour d'une table avec celui qui ose parler et celui qui s'exprime moins ne peut pas devenir créatif et permettre l'expression d'idées nouvelles. On est dans le politiquement correct, et ça, c'est tout à fait sclérosant. Quand on commence à mettre, je dirais, à contribution un certain nombre de collaborateurs, à étendre les comités, à ne pas les restreindre, à favoriser le transverse, eh bien, on va être là dans une vraie construction qui va vraiment favoriser la force de proposition de chacun. Voilà. Alors, l'agilité, ça peut être des outils, mais ce sont aussi des processus pour améliorer la performance. Donc, ça va impliquer des changements. Ça va impliquer des changements tant au niveau des fonctionnements, donc plus de transverses, des comités élargis. Quand on parle, par exemple, de réunions sous forme de World Café, le World Café, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne les ai pas tous détaillés, je vais juste vous en parler parce que je préférerais qu'ensuite, on ait ensemble un échange, justement, puisque vous venez d'évoquer certaines de vos problématiques, qu'on ait ensemble un échange sur des cas réels. Alors, cas réels que vous pouvez me décrire dans ces grandes lignes et face auxquels on pourra, élaborer ensemble des prémices de solutions. Et donc là, je vais vous évoquer très rapidement les outils, outils ou processus, puis je vous présenterai une cartographie et après on pourra échanger. Je pense que c'est plus intéressant d'échanger en direct. On fera un aller-retour de... Bon, alors on fera un aller-retour de micro, on se débrouillera. Donc, cela va impliquer des changements, c'est-à-dire fini ces comités de direction beaucoup trop restreints. Le transverse est nécessaire. Alors, il existait dans un comité de direction, mais les comités doivent être élargis aux personnes qui, parfois, ne font partie d'aucun, mais sont des yeux avertis et totalement informés sur certaines problématiques de l'entreprise. Et trop souvent, ils ne sont pas toujours invités au comité qui contribue à soi-disant co-construire une solution. Quand on parle donc de World Café, ce sont des réunions qui peuvent se faire à une vingtaine, mais aussi à 40 si on veut, voire à 50 ou 100 dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que quand on est dans le paradigme d'avant, on se dit « mais c'est complètement fou et on n'y arrivera jamais ». Or, un World Café est organisé, c'est une réunion de production, de récolte d'idées et de production, de co-construction de plans d'action. Le World Café s'articule autour de différentes questions afférentes aux problématiques que l'entreprise rencontre. Les gens, les participants vont sur des post-it avec une idée par post-it apporter leur idée concernant chaque question. Donc c'est bien plus facile de ne pas s'exprimer, je dirais, en plénière sur chacune de ces idées. C'est bien plus facile de formuler ces idées sur un post-it. Ensuite, l'hôte de table concernant chaque question va faire sa synthèse des idées qui ont été transmises et regroupées autour de ces questions. Et ensuite, en plénière, on peut venir voter. Vous avez vu en bas, vous êtes peut-être présenté dans le parcours de didactique, je ne sais plus comment s'appelle cette société qui s'est montée sur les pratiques agiles. Chacun met sa gommette, les participants, les collaborateurs de l'entreprise viennent mettre une gommette à côté des idées qui leur plaisent bien. Et ensemble, on peut, je dirais, détacher les différentes actions qui ont été envisagées pour en faire un plan d'action auquel, je dirais, mécaniquement, l'ensemble des participants ont, je dirais, apporté quelque chose. Donc, on a là une implication de l'ensemble des participants qui est de fait. Quand on parle d'un forum ouvert, par exemple, alors là, c'est autre chose. J'en ai animé il n'y a pas très longtemps sur le bonheur au travail dans une entreprise nationale. Le forum ouvert, on parle de bonheur au travail. On est peut-être 50, 60, 80 dans la salle. Le bonheur au travail, je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'axes qui seraient vus par l'ensemble d'entre vous, une vingtaine d'axes différents. On organise la place du marché autour de ces 20 axes qui constituent le thème du bonheur au travail. Donc chacun a apporté sa pierre à l'édifice et sur ces axes, chacun va venir aussi apporter des idées d'amélioration sur différents points. La configuration des lieux, qu'on parle bonheur au travail, l'organisation du travail en termes d'horaire, mais on peut aussi parler de l'organisation de comités de réflexion sur certains points. Et quand chacun apporte ses idées, et bien de la même manière, on a des plans d'action qui se détachent naturellement dans 20 directions différentes, et on a passé 2 heures, 3 heures, rarement plus de 3 heures, à élaborer tout ça, et chacun a pu apporter ses idées. Voilà. Quand on parle de World Café, quand on parle de forum ouvert, on explore, on répond à des questionnements de l'entreprise, à des problématiques, on explore des thèmes souhaités par la direction ou par les collaborateurs et on les explore ensemble avec ces processus-là de nouveau. On peut après parler de speedboat. Alors je vous donnerai une cartographie. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est de se réunir différemment, de permettre un autre type d'expression. C'est en ça que l'agilité répond réellement à 90% des problématiques managériales. Ça, c'est parce qu'on voulait être modeste, on pourrait dire 100%. Hein. Mais c'est en ça que l'agilité, ces processus répondent à ces problématiques parce qu'elles permettent, ils permettent ces processus, l'expression de chacun et une force de proposition donc bien différente. On parle de nouveaux moyens aussi, de l'agilité, des nouveaux outils. On peut parler du mind map, c'est-à-dire des cartographies. Plutôt qu'à la fin de chaque réunion, rédiger un rapport qui fait 42 pages et que personne ne lit. Il est quand même tellement mieux d'imaginer faire une cartographie des différents sujets qui ont été évoqués, y indiquer peut-être les deux ou trois éléments principaux qui ont été éventuellement décidés ou qui sont en questionnement. Et quelque part, ça permet à chacun d'embrasser la totalité de ce qui s'est passé, de capter l'esprit de ce qu'a été cette réunion. Au-delà de ça, quand on parle de mind map, on peut aussi faire des cartographies d'idées, comment faire pour améliorer tel processus d'entreprise. Bon, les gens ont des idées, ils peuvent passer à côté, puisque quand on parle de management visuel, on avait un très bel atelier là précédemment sur le management qui parlait notamment du management visuel. Ça permet à chacun de se sentir impliqué parce que chacun, au travers d'une cartographie affichée, bien évidemment, est tenu au courant et sait ce qu'il se passe, connaît les questionnements en cours, peut y apporter sa contribution, encore une fois, au travers d'un petit post-it qu'il a écrit parce qu'il est passé devant hier, il y a pensé ce matin, ce midi, il va mettre son post-it, il va enrichir la réflexion sans jamais être nécessairement en relation directe avec l'ensemble des contributeurs. On parle des stand-up meetings, eh bien autour d'une cartographie qui pose un questionnement dans le service, dans l'entreprise, eh bien on peut de temps en temps faire un stand-up meeting d'échange pour continuer d'enrichir la réflexion collective. Quand on parle de réflexion collective, grâce au mind map, grâce au management visuel, elle peut être permanente, enrichie en permanence, puis synthétisée quand c'est opportun, de manière, encore une fois, à mettre en place les éléments de solution ou les nouveaux modes de fonctionnement qui conviennent mieux à l'ensemble des personnes qu'on puisse exprimer, notamment. On parle d'animation quand on parle de nouveaux moyens, donc mind map, management visuel. On parle d'animation, ne serait-ce qu'au niveau des services. Aujourd'hui, en fait, le dirigeant, le manager doit être essentiellement un animateur. Animateur pourquoi ? Parce qu'il est toujours plus efficace pour un dirigeant, un manager, plutôt que d'asséner, ce qui était le cas il y a une trentaine d'années, hein, plutôt que d'asséner ou de faire du top-to-down, comme on dit, des ordres, parfois des contre-ordres, au moins de les faire émerger, de faire émerger les idées, les modes de fonctionnement de la part de ses collaborateurs, parce que ce sera toujours plus adapté à ce qu'ils font. À part avoir affaire à des tordus, ça existe quand même, mais pas en grosse proportion. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant qu'il va sciemment saboter sa manière de fonctionner au travail. Toute personne qui arrive à l'entreprise, on va dire à 95% ou à 90%, aurait envie que ça fonctionne mieux. Comme à chaque individu, face à ses problématiques quotidiennes, a toujours des idées de la manière dont il pourrait les améliorer. L'idée, aujourd'hui, dans l'agilité, sur le plan managérial et organisationnel, c'est bien de faire en sorte que les managers récoltent et sachent susciter ces propositions de la part des collaborateurs pour justement permettre de fluidifier leur mode de fonctionnement, de le faciliter. Là, je parle d'un service, mais après, c'est inter-service. Combien de relations inter-services se télescopent et sont vraiment consommatrices d'énergie et de temps, alors que si les gens se parlaient, ils fonctionneraient bien plus facilement et gagneraient beaucoup de temps parce que les uns se conforment à une directive qui vient d'un endroit, les autres se conforment à une exigence qui vient d'un autre et ils ne se rendent pas compte nécessairement entre différents silos de l'entreprise. Qu'ils ont des outils qui faciliteraient le travail des autres, mais ils ne connaissent pas exactement le fonctionnement des autres et c'est impossible. C'est dommage. Alors voilà, donc ça implique donc ce dont je viens de vous parler, un fonctionnement différent, des nouveaux moyens et des nouveaux process. Donc ces outils, là je vous les ai disons un petit peu caricaturés, caractérisés. Il y a le management visuel et collaboratif. Pour que tout le monde soit au courant, c'est dans l'ordre de la communication, c'est de l'ordre de l'information, c'est de l'ordre de la meilleure connaissance de ce que font les uns et les autres, Parce que quand on parle du Kanban ou de certains tableaux où on sait, il y a une colonne du à faire, du en cours, du le donne, le fait, hein, ça permet à chacun de visualiser aussi l'état, la situation à l'instant T d'un service ou d'un processus. Donc ces outils de management visuel et collaboratif sont essentiels. Ensuite, l'animation et la communication, tout ce qui est outils et processus de communication et d'échange pour améliorer le transverse. Quand je vous ai parlé du World Café, quand je vous ai parlé du forum ouvert, autour d'un projet, on peut parler du speedboat, c'est-à-dire donner un petit peu de fun à la réflexion en dessinant ce bateau qui, lui, va vers une île. Il est poussé par des vents, je dirais, favorables. Il est parfois retenu par des ancrages, par des ancres, par des... ce qui existe parfois au fond de nos organisations et qui empêche les choses d'évoluer. Et l'idée, c'est autour d'un tel schéma, là encore, d'imaginer collectivement ou par petits groupes quels sont les vents favorables à un projet, quels sont malheureusement les événements qui pourraient venir le contrarier, hein, les tourbillons ponctuels, quels sont les éléments qui, je dirais, dans l'entreprise, dans les organisations, constituent des ancres qui sont freinantes, voire parfois bloquantes dans l'évolution du projet, tout en sachant, puisque vous parliez aussi de savoir dans quelle direction on va, et ça c'est un problème dans certaines entreprises, les gens ont besoin de comprendre et d'agir tous ensemble dans le même but, encore faut-il qu'ils le connaissent. Et dans le speedboat, vous avez effectivement cette île vers laquelle se dirige le bateau. Alors, je vous ai fait cette cartographie. Est-ce que vous la lisez? J'ai eu un doute de dernier moment. Hein, vous ne la lisez pas. Alors, par contre, je la transférerai à l'organisation du Club Agile parce que c'est ce qui, je dirais, fasse... Alors, rendre les équipes autonomes, animer les processus, coordonner les acteurs, impliquer tous les collaborateurs. Vous lisez peut-être au moins les outils en rouge ? Mal, parce que pour rendre les équipes autonomes, encore faut-il qu'elles soient au courant de ce autour de quoi elles travaillent. Encore faut-il qu'elles soient au courant. Moi, combien j'entends de personnes qui, dans les entreprises, me disent mais je vous le ferai envoyer, hein, ce mapping-là. Combien j'entends de personnes qui, dans les entreprises, me disent « Mais moi, je fais au mieux, mais je ne suis pas complètement certain de faire dans le bon sens. » C'est-à-dire que, là encore, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on parle de l'implication dans le travail d'un certain nombre de personnes, on parle du désengagement. On peut parler aussi de gens qui auraient envie de bien faire, mais qui ne font plus, puis à la limite, ils s'en fichent un peu parce qu'ils ne sont pas motivés. Mais au-delà de la motivation, quand on sait quand même que 90% des gens aimeraient faire mieux ce qu'ils font, parce que au moins pour leur, considération d'eux-mêmes, pour leur amour propre, eh bien encore faut-il qu'ils soient et convaincus, mais qu'ils sachent dans quel sens va aller l'entreprise et le pourquoi. Hein. Donc je parle du mind mapping pour l'information, je parle du management visuel pour l'information aussi. Hein. Quand on parle de mind mapping, ce sont des cartographies. Quand on parle du management visuel, ça peut être des cartographies, ça peut être des tableaux, ça peut être des smileys, des indicateurs d'activité ou de performance sur lesquels on colle un feu rouge, un feu vert, un smiley ou autre, qui donne le ton, en fait, pour que chacun soit au diapason de des informations qu'il capte. On parle du Kanban, donc le Kanban, c'est un tableau, tout simplement, hein. Après, on en fait ce qu'on veut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne soyons surtout pas dogmatiques sur les outils ou sur les processus. Sachons, quand ils existent, que l'on peut en faire une multitude de déclinaisons en fonction réellement de nos besoins, des besoins de l'organisation, en fonction de la manière dont les gens travaillent, de la manière dont les organisations sont structurées, multisites ou pas multisites, équipe restreinte ou pas équipe restreinte. Ensuite, on parle du time boxing. Ça, c'est un mot que je n'ai pas employé jusqu'à présent. L'idée est essentiellement de pouvoir avoir la gestion du temps. Quand vous parliez, une personne a évoqué la gestion du temps dans l'entreprise. eh bien, il est bon d'être clair là-dessus et effectivement, à différents niveaux, tant au niveau de réunions qui s'éternisent tellement parfois que tout le monde en a marre et qu'on est en train de polluer le reste, que de processus qu'on met en place ou de milestones aussi, enfin de dates limites que l'on se définit ou de moments limites que l'on se définit dans l'évolution d'un projet, il faut savoir que les collaborateurs ont autant besoin de connaître les objectifs de l'entreprise que de connaître le sens de l'entreprise, les valeurs qu'elle porte et la manière dont chacun donc va s'impliquer dans l'entreprise. Ils ont autant besoin de connaître tout ça que de savoir aussi dans quel délai on décide de se diriger vers la réalisation de tel objectif. On a besoin, les collaborateurs ont besoin de connaître le degré d'intensité de la réalisation des projets. Et ils ont aussi besoin de savoir que quand on s'est fixé des moments limites de réalisation d'étapes, eh bien, on peut faire le point dans l'entreprise. Alors, au niveau des équipes Scrum, c'est ce qu'ils font de manière très processée, très déterminée. Je dirais que dans la réalisation et l'application d'une stratégie d'entreprise, il est quand même très important aussi de connaître ces points d'étape et en même temps d'être capable, et là je parle du manager, du dirigeant animateur, d'être capable quand on a atteint ou pas atteint les réalisations à un moment donné, d'être capable d'animer un échange, que ce soit sous forme d'un World Café, que ce soit sous forme d'un forum ouvert, d'être capable d'animer un échange collectif qui permet ensemble de faire un point d'étape et de décider d'influer sur les plans d'action initialement déterminés pour que chacun ait à cœur, lorsqu'on est sorti de faire le point sur l'étape, que chacun ait à cœur de faire sa proposition, de donner ses idées, et que chacun sorte avec la conviction qu'il a été vraiment l'acteur du nouveau plan d'action. Comment peut-on décider d'un plan d'action auquel des gens vont s'appliquer, enfin que des gens vont s'appliquer à travailler, je dirais, et à réaliser, si en même temps les mêmes personnes qui sont là n'ont pas pu, ne serait-ce que donner une idée ou deux sur la manière dont il fallait s'y prendre. Donc l'important, encore une fois, c'est étape par étape, c'est de savoir cadencer ce que j'appellerais le chemin long de l'entreprise, savoir cadencer aussi la réalisation des objectifs et que chacun se sente, on parle bien de time boxing, la boîte du temps, que chacun se sente agir dans un temps donné et être prêt à se corriger, à apporter les transformations nécessaires pour influencer et modifier ses plans d'action. Alors, je parle donc le forum ouvert, j'en ai parlé. Les stand-up meetings, on se casse la tête parfois dans les services à vouloir vraiment créer des réunions. Alors, le lundi matin ou le lundi après-midi. Alors, on fixe des créneaux horaires qui sont bons pour tout le monde, mais jamais bons pour tout le monde. Et on se contraint, et là je dirais, c'est ça, c'est un peu l'outil d'hier, on se contraint à vouloir absolument rigidifier ce mode d'échange, alors que parfois, justement avec des outils de management visuel, des outils visuels tout court auxquels chacun peut avoir accès et auxquels chacun peut contribuer, de manière régulière et quand il le souhaite, eh bien, un petit stand-up meeting avec une tasse à café dans la main, ne serait-ce que parfois pendant une demi-heure sur certains sujets de service, pour se faire la synthèse de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé comme idée sur une problématique donnée, eh bien, le stand-up meeting, c'est une demi-heure, c'est trois quarts d'heure maximum pour faire la synthèse d'échanges, je dirais, non formels qui se sont produits dans les 15 jours précédents. Et là, on n'a pas besoin de faire une grande réunion. Voilà. Je parle de stand-up meeting comme étant des petites réunions dans lesquelles le service ou les gens concernés sont debout à faire la synthèse et à décider d'actions sur la base d'idées que chacun a pu fournir dans une période lambda définie qui a précédé. J'ai pas parlé du co-développement. Le co-développement, ce sont donc des réunions de comités, ce que j'appellerais transverses. Tous les gens qui sont concernés par une problématique peuvent se réunir à propos de cette problématique portée par l'un d'entre eux et auquel chacun va contribuer en termes d'idées, de suggestions, de propositions de partage d'expérience pour, au final, après cet atelier de co-développement sur la problématique, pour, au final, que la personne porteuse de la problématique puisse en faire une synthèse, en dégager son plan d'action et revenir quelques temps plus tard pour expliquer ce qu'elle a pu mettre en œuvre, pour éventuellement, alors c'est pas pour se justifier, c'est pas pour pointer ce qu'on n'a pas pu faire, c'est surtout du coup pour se reposer la question de savoir quelles sont les raisons qui ont empêché la mise en œuvre de certaines solutions à cette problématique donnée, et du coup pouvoir reconstruire en complément un plan d'action qui va parfaire, je dirais, la résolution du problème. Et quand vous avez des gens que l'on mélange de la production, des finances, qui tournent autour d'un problème de logistique ou d'un problème de fonctionnement d'un service, eh bien, c'est excessivement riche. Mais là encore, c'est ponctuel. On n'en fait pas quelque chose de récurrent. On n'en fait pas quelque chose de, encore une fois, dogmatique. C'est un outil dont on se sert autour d'une problématique donnée à laquelle on réfléchit en réunissant les différents acteurs concernés. Quand on parle de forum ouvert, quand on parle de World Café, on peut à la limite impliquer des gens qui sont concernés de manière très très éloignée, mais qui auront, eux, la vision avec un certain recul sur les sujets qui auront été évoqués. Quand on parle co-développement, en règle générale, on regroupe des acteurs très concernés dans la problématique. Donc j'ai parlé du speedboat comme d'un outil qui peut permettre à une équipe d'envisager toutes les facettes de la réalisation d'un projet et ce qui va venir qui potentiellement contrarier le projet pour justement envisager des actions qui seraient, je dirais, pour éviter ces problématiques qui pourraient se présenter. J'ai parlé du World Café. Vous avez vécu ce matin, en introduction de cette journée, un icebreaker. Donc, quand je parle de on peut parler de warm-up, d'icebreaker. On peut parler aussi on parle de la météo quand on fait une réunion, de système d'inclusion. Il est bon aussi parfois dans les entreprises, dans les organisations, au sein de son service, quand on démarre une réunion, que chacun puisse se poser pour partager à un moment, en l'espace de quelques mots, l'état d'esprit, la situation dans laquelle il est. Et qui évite parfois des éléments non formels et un peu polluants dans une réunion, quand il y en a un qui tire un peu le nez parce qu'il a un souci par ailleurs. Se poser avant une journée, avant une réunion, avant une réflexion collective, permet de poser un petit peu les valises de nos poids et permet de bien être présent dans la réunion. L'icebreaker aujourd'hui, les gens ne se connaissaient pas tous, bien loin de là, ça permet d'étendre l'atmosphère et de se remettre en énergie. Il y a tout un tas de petits éléments comme ça dont on parle en tant qu'outil de l'agilité qui permettent de se remettre en énergie et de rentrer dans le sujet d'un comité, d'une réflexion collective parce qu'on se défait de certaines choses qui nous chargent parfois et souvent d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça que j'évoque le warm-up et l'icebreaker. Oui, et bon, alors ça, je ne sais pas si vous le lisez, l'organisation d'aujourd'hui devrait être comme ça. On va dire qu'il serait bon que ce soit l'organisation de demain, où le dirigeant devient un animateur, où le dirigeant est capable de donner le sens avec un S majuscule à son entreprise, sens auquel donc adhèrent par valeur personnelle les collaborateurs qui le souhaitent. Ceux qui ne le souhaitent pas, c'est qu'ils n'ont rien à y faire, hein. Ça insuffle une nouvelle dynamique, ça rend les équipes plus autonomes parce qu'elles savent au moins dans quel sens elles vont, donc elles y vont. Les équipes sont plus apprenantes si tant est qu'elles partagent. Hein. Quand on parle de développer l'intelligence collective, c'en est la conséquence, toute simple. Hein. Créer de la cohésion, comme vous avez évoqué dans un premier temps, eh bien, c'est le résultat d'une compréhension collective de ce sens et de la mission de l'entreprise et la déclinaison de la mission que chacun s'octroie dans l'entreprise. C'est l'idéal pour rendre l'entreprise plus adaptable et plus performante, mais elle est là, du coup, pour contribuer. Quand on parle de bien-être dans l'entreprise, ce n'est pas acheter une chaise longue à chacun pour qu'il s'y sente mieux. Le bien-être dans l'entreprise, c'est le résultat d'une entreprise qui est communicante, qui considère chaque individu comme ayant sa place dans l'entreprise. Et c'est utile autant à l'entreprise qu'aux individus. Et bien évidemment, ça ne fera qu'augmenter la performance et la profitabilité de l'entreprise. Voilà. Donc, là, c'est vraiment le mot de la fin. L'agilité répond aux préoccupations managériales actuelles et elle permet surtout l'accès à une autre dimension. Quand on dit une autre dimension, c'est sortir de cette dimension cartésienne de l'entreprise et prendre en compte cette dimension humaine, mais qui ne signifie pas philanthropie, qui signifie dimension humaine, considération de l'individu pour plus d'énergie. L'icebreaker qu'on a eu ce matin, tout le monde est ressorti avec le sourire. Il y avait une énergie nouvelle qui était dans le groupe, voilà. Et chacun allait dans les ateliers qu'il avait choisis. L'agilité, c'est ça, et dans l'entreprise au quotidien, ça doit être ça. Alors, n'oublions pas les sponsors de cette grande journée, parce que vous êtes quand même plus de 800 aujourd'hui, et c'est ce qu'ont pu faire le comité d'organisation, et grâce aux sponsors, est énorme. La région Normandie en premier. Et puis, il y a donc différentes entreprises et organisations, type IUT, quand je parle d'institutionnel aussi. Voilà. Et donc là, vous avez mes coordonnées sur Avignon, mais nous sommes quand même bien loin les uns des autres. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.